Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiaque, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC.
RMC. 7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Il est 7h11 et nous voilà de retour sur RMC. Bienvenue dans ce week-end des experts. On est là jusqu'à 10h avec tout à l'heure la vie numérique Raphaël Grably. On va fêter les 15 ans de Google Maps, cette appli qui a complètement révolutionné notre manière de se déplacer. On évoquera aussi les bons plats réconfortants de l'hiver avec Christian Ekia. Ça va parler pot-au-feu, bœuf bourguignon, choucroute, cassoulet tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui lui arrive à Christian Ekia. On va voir ça dans un instant. Et puis, vous le savez, après le jardin et avant de retrouver Christian Ekia, place maintenant à la maison. Monsieur PC, bonjour.
Mais bonjour, monsieur Sorel. Comment allez-vous?
Ça va très très bien, mon cher Christian. La maison, vous le savez, chaque samedi 7h, 8h, c'est exclusif RMC. Christian, oui. Tout à l'heure, on va parler d'un champignon méchant.
Le champignon méchant.
Il attaque les maisons.
Voilà, oui. On pourrait faire un film d'horreur.
Mais
avec,
oui.
Ce champignon, c'est la mérule. Alors, j'ai décidé de l'appeler là, parce que quand on prend les dictionnaires, c'est là, c'est le. Bon, on va l'appeler là.
On a qu'à dire les.
Les fléaux viennent toujours des femmes, c'est bien connu.
On a qu'à dire les mérules.
Voilà.
Comme ça, on est tranquille.
Ben, je ne sais pas s'il y en a plusieurs espèces, mais en tout cas, c'est une saloperie qui peut fragiliser votre maison jusqu'à des extrêmes.
Est-ce que parfois on est obligé de partir d'une maison parce qu'elle est complètement infestée par les mérules?
Oui, notre invité, M. Bruand, qui est déjà là, nous le précisera tout à l'heure. Mais oui, ça peut aller sur ce que j'appelle le coup de bulle.
Le coup de bulle?
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Il n'y a plus que le bulldozer.
Ah oui, d'accord. Le coup de bulldozer, d'accord. Bah oui, là franchement, c'est vraiment la solution, radicale. Je vous rappelle que, bien sûr, dans ce rendez-vous maison, vous avez la priorité. C'est vous qui posez vos questions à Christian Pessé. N'hésitez pas. Le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Dans un instant, on va parler d'humidité dans la maison. Bah, tiens, c'est lié avec la mérule.
Oui, complètement. Voilà. C'est pour ça que j'ai décidé de parler de ce fléau aussi qui est l'humidité dans le cadre de mon conseil d'expert.
Voilà, d'où vient-elle et comment la combattre? Et le 32-16 à vos dispositions pour joindre Christian Pessé. Bienvenue à vous toutes, à vous tous. C'est parti, on accueille Cathy pour débuter. Bonjour Cathy.
Bonjour Cathy. À vous deux, François et Christian. Merci de prendre mon appel.
Bienvenue sur RMC, vous nous appelez du Vaucluse.
J'appelle du Vaucluse et j'appelle à propos d'une maison qui, elle, est dans le Massif Central.
D'accord.
Donc, je le précise parce que pour faire une rénovation à distance, c'est pas toujours facile.
Effectivement, j'ai connu ça, mais encore plus loin. Mais bon, c'est pas simple quand on n'est pas sur place.
Alors, je voulais vous demander des conseils à propos de changement de volets. J'ai fait changer des volets qui sont des volets en bois, en sapin, qui sont blancs, donc peinture blanche. Et quand je les ai fait refaire en juillet, j'ai fait appel à un artisan local. Donc, je voulais absolument faire travailler quelqu'un qui était à côté. Et quand il est venu faire le devis, il m'a dit « Je ne vous cacherai pas que je vais sous-traiter ». Donc, il est charpentier, il a pignon sur rue, donc quelqu'un de sérieux. Donc j'étais un petit peu déçue parce que j'aurais préféré que ce soit lui qui les fasse. Bon, ça s'est quand même déroulé en juillet, donc on m'a posé les volets. Et puis, il y a eu des petits soucis parce que les fermetures des portes de garage n'avaient pas été livrées. Le garage est resté ouvert pendant un mois. Enfin bon, bref. En septembre, ça s'est réglé. Et en octobre, quand je suis remontée voir la maison, j'ai vu qu'il y avait plein de taches jaunes sur le côté extérieur des volets.
Oui.
Donc j'ai appelé évidemment l'artisan qui est venu tout de suite, et puis il m'a dit que c'était probablement une remontée de tanin parce qu'il n'y avait pas eu la sous-couche.
Oui.
Alors je voulais savoir si vous confirmez ce que vous en pensez.
Oui, c'est certainement ou bien des remontées de résine, hein, si c'est du sapin, c'est tout à fait possible. Mais donc il va vous les changer, ces volets.
Alors justement, c'est pour ça que j'ai besoin de vos conseils, parce que comme il a sous-traité, il a contacté donc l'entreprise qui a fait les travaux. Ils ont donc dépêché quelqu'un qui apparemment n'a pas nié du tout le fait qu'il y avait un problème. Et alors la proposition qu'ils ont fait à l'artisan, mais moi je l'ai appris par quelqu'un d'autre en plus, c'est qu'ils demandent à mon artisan, là, le charpentier, le menuisier, de trouver un autre artisan peintre pour qu'il nous ponce les volets et qu'il les repeigne.
Alors attendez,
alors moi, j'ai pas été trop d'accord.
Bien sûr. Le devis, vous l'avez signé avec monsieur Dupont.
Voilà, monsieur d'accord. Dupont charpentier, oui.
Voilà. Le reste, ça ne vous concerne pas.
Et
ce
oui.
n'est pas à vous de discuter avec des sous-traitants, du sous-traitant.
D'accord.
Donc, vous allez lui rappeler que, de toute façon, les volets entrent dans le cadre, globalement, de ce qu'on appelle la garantie décennale, et
oui.
qu'à ce titre, il est dans le parfait achèvement, et que donc, pendant toute la période, au moins d'un an, il est obligé de vous remplacer les éléments défaillants, et pas de vous proposer un bricolage de réparation, parce que, de toute façon, là, s'il y a de la remontée de résine, s'il y a de la remontée de tanin, si donc le bois n'est pas assez sec, etc., vous allez pouvoir repeindre tout ce que vous voulez dans quelques mois, dans quelques années.
Voilà.
Ça va à nouveau se reproduire, et là, progressivement, on va vous dire, parce que je peux vous dire le discours qu'il va y avoir. Le discours, ça va être au bout d'un an, ah ben oui, mais vous comprenez, c'est esthétique. Donc ça n'entre pas dans la décennale. Donc comme c'est esthétique, eh bien, on va vous rebricoler ça, et puis on va vous le faire deux fois, trois fois, et puis après, vous ne reverrez plus l'artisan.
Voilà, donc, c'est bien ce que je pensais au départ.
Donc,
et puis, je me suis dit que peut-être...
Bon. Il y a combien de temps qu'ils vous ont été livrés ?
En juillet,
bon, moi, vous lui dites, écoutez, vous me remplacez où on va engager...
voilà.
Vous, alors, bon, évidemment, j'imagine que vous n'avez pas pris d'assurance de dommage ouvrage.
Mais
ça, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est très difficile, cette dommage ouvrage. On ne la prend, elle coûte cher. On ne la prend que quand il y a des gros travaux.
Dans le meilleur des cas,
et vous n'y avez même pas pensé.
Non.
Personne ne pense, très peu de gens pensent que quand on remplace des fenêtres, quand on remplace des volets, c'est-à-dire quand on remplace tout ce qui entre dans la garantie décennale, eh bien, normalement, il faut prendre une assurance dommage ouvrage. Alors, je sais bien que là, je prêche dans le désert parce que c'est presque impossible à trouver un assureur simplement pour des volets. Mais néanmoins, globalement, vous êtes dans le cadre général, dans le cadre légal de la dommage ouvrage. Donc vous demandez, vous dites, voilà, je demande au titre du parfait achèvement que vous me remplaciez mes volets, parce que de toute façon, les opérations, je veux dire, qui relèvent dans l'entretien, en fait. C'est-à-dire, dans 15 ans, vous serez peut-être obligé de toute façon de faire ça,
voilà.
Puisque vous avez opté pour des volets bois. Faut savoir quand
et
même.
Et alors, en plus, donc à Noël, j'ai constaté que les portes du garage, là, ne s'ouvraient carrément plus.
C'est-à-dire
que je n'ai pas pu avoir accès ni à la cuve du fioul, ni à l'arrivée d'eau. Est-ce que ça a gonflé ? Est-ce que c'est en rapport ?
Et bien sûr, c'est parce que, alors, plusieurs causes à cela. Soit le bois n'était pas assez sec, et donc il joue. Soit il n'est pas suffisamment traité, et puis il y a peut-être des parties aussi. Le champ de la porte, peut-être que ça s'humidifie, parce que ce n'est pas assez protégé, et une humidification fait gonfler le bois, et ça n'ouvre plus. Donc ça aussi, vous lui dites, remplacez-moi la porte du garage.
Hein. Donc voilà, et là je m'adresse à mon artisan directement.
Directement, vous ne connaissez que lui.
Oui, quitte à entamer une procédure juridique.
Eh oui, évidemment. Dites-lui
ça, c'est bien dommage, parce que justement j'avais choisi un artisan local pour éviter tout ça.
Eh oui, mais peut-être que quand il vous a dit qu'il allait sous-traiter, vous auriez peut-être pu lui dire, écoutez, on arrête là, parce que après ça va être très difficile d'obtenir l'exécution des garanties.
Cathy, merci pour votre appel. Christian, il est 7h20.
Oui.
Il est temps maintenant de retrouver votre conseil béton. Et faites attention aux pieds.
Je fais attention.
RMC, votre maison.
Le conseil béton de Christian Pesset.
Christian,
oui.
On va évoquer maintenant l'un des fléaux dans la maison, c'est l'humidité.
Oui, absolument. Alors, on ne va pas traiter aujourd'hui l'humidité elle-même, c'est-à-dire je ne vais pas vous donner les solutions, ça je reviendrai dans de futures émissions. Je pense qu'il y a une saga à faire là-dessus, hein, sur comment lutter contre l'humidité. Mais là, je vais évoquer les causes, parce qu'il y a pas, il y a l'humidité, mais il y a aussi les humidités au sens des causes. La première des causes, c'est quoi ? Eh bien, ce sont les infiltrations. Les infiltrations, elles viennent d'où ? Elles viennent de la toiture, elles viennent des gouttières et des descentes d'eau, elles viennent de la façade si elle n'est plus étanche, et puis elles viennent aussi d'infiltration au niveau des portes et des fenêtres. Alors la première des choses, c'est vérifier si effectivement l'eau ne vient pas, enfin l'humidité ne vient pas de ces parties de la maison. Elles viennent généralement, ces traces d'eau, du plafond vers le sol, sauf évidemment dans la cave. Donc la première cause, c'est ça. La deuxième, c'est les fuites des réseaux sanitaires. Alors c'est la fuite des réseaux d'alimentation d'eau et d'évacuation au niveau principalement des appareils, la baignoire, enfin pas des appareils, la douche, le lavabo, les évacuations au niveau des siphons et au niveau souvent de la cuvette des WC, rarement des canalisations elles-mêmes, lorsque, sauf qu'on a eu des problèmes de gel. Alors on les repère parce que ça fait de l'écoulement généralement près donc de ces fuites, mais il faut faire attention parce que l'eau ça suit un certain nombre d'éléments de construction de la maison. Par exemple, ça peut suivre un plancher, ça peut suivre une canalisation, vous pouvez avoir une fuite à un endroit de la maison et qui vienne d'un autre. C'est un peu, c'est assez difficile. Pour voir s'il n'y a pas des micro-fuites, c'est simple. Lorsque vous vous couchez, vous relevez le compteur d'eau, et lorsque le lendemain matin, s'il n'y a eu aucun appareil, on n'a pas tiré une chasse d'eau haute, et bien vous allez voir une légère différence. Vous faites ça sur plusieurs jours, que vous allez vous rendre compte qu'il y a certainement une micro-fuite. Troisième cause d'humidité, on en parle souvent, ce sont les remontées capillaires. Alors c'est quoi ? C'est un phénomène d'imprégnation ascendante vers le haut de la construction qui, lorsqu'elle est les pieds dans l'eau, eh bien, elle se comporte comme un buvard. La maison est très sèche, elle aspire l'eau. Vous avez vu comme je fais bien les remontées capillaires.
Ah oui, c'est impressionnant.
C'est impressionnant. Hein. Donc,
je suis sûr que vous faites le même bruit quand vous mangez la soupe.
Ça monte. C'est-à-dire au lieu de on a parlé tout à l'heure des infiltrations qui descendent, ça monte. Et notamment au niveau du plancher du rez-de-chaussée, ça peut monter jusqu'à 1 mètre, 2 mètres. Il faudra intervenir. Quatrième cause d'humidité, la condensation. Je ne cesse d'en parler, on en parlera tout à l'heure à propos de la mer. C'est quoi ? Ça résulte du confinement, de l'étanchéité à l'air de plus en plus forte de nos maisons, notamment quand on a changé les fenêtres et qu'on a mis des fenêtres isolantes et qu'on n'a pas mis une ventilation suffisante, c'est-à-dire une ventilation mécanique, contrôlée, ou bien ce qu'on appelle une VMI, c'est-à-dire dans les vieilles maisons, par insufflation. Alors là, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez l'air chaud dans la maison, il y a de l'humidité parce qu'on fait de la cuisine, parce qu'on se douche, tout simplement parce qu'on respire, et le taux d'humidité explose dans la maison, et là, vous avez des phénomènes de condensation, principalement au niveau des plafonds. C'est-à-dire que comme l'air chaud monte, c'est le phénomène classique de un petit peu de traces noires entre le plafond et le mur. Ça, c'est la condensation. Le rétablissement d'une ventilation est indispensable. Voilà, j'ai traité les causes. Et dans de futures émissions, je vais vous expliquer comment, pour chacun de ces cas, comment éradiquer donc l'humidité et éviter de se trouver dans une situation favorable justement à la prolifération de champignons, comme on va en parler tout à l'heure, ou simplement de traces. Il n'y a pas seulement, on va pas tout systématiquement attraper la mérule, si j'ose dire, s'il y a ces traces d'humidité, ces infiltrations, mais c'est essentiel de lutter, donc ne serait-ce que pour une question de santé, contre l'humidité dans la maison.
On va dire que déjà, le premier point pour régler pas mal de problèmes, c'est une bonne VMC, on est d'accord ?
Oui, pour les phénomènes de condensation, voilà, mais pour les phénomènes d'infiltration,
c'est plus compliqué, évidemment. Donc on y revient la semaine prochaine. Quel suspense, Christian ? Comment vont faire nos auditeurs pour attendre la réponse pendant une semaine ?
Je me demande.
Ça va être terrible. Dans un instant, on va parler de la mérule, Christian. Et là, évidemment, c'est un sujet sérieux. Et on vous attend au 32-16. J'aimerais bien avoir vos témoignages ou vos questions sur ce sujet. Votre maison est atteinte de mérule. Vous avez déjà eu des problèmes avec ce type d'attaque. Vous voulez poser vos questions, vous voulez témoigner. Racontez-nous comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez pu éradiquer la mérule de votre maison ?
Et puis vous vous inquiétez parce que vous avez vu des champignons apparaître dans la cave, par exemple. Voilà. Ça m'est arrivé, moi, il y a quelques années.
Et quels sont les symptômes, tiens, de l'arrivée, de l'apparition de la mérule ? N'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On en parle dans une minute, mais d'ores et déjà, vous pouvez joindre Amina si vous avez des questions ou témoigner sur ce sujet. A tout de suite, après la météo.
RMC,
7h-8h,
votre maison, François Sorel,
Christian Pessé.
Voilà, 7h27, bienvenue sur RMC, peut-être venez-vous de nous rejoindre. Attention les amis, maintenant la menace Mérule.
Sur un coin,
il y avait casse baissée.
Et c'était quoi comme champignon au fait? Je sais pas, j'y connais rien en champignon.
Je crois que c'est de la volaille, sire.
Nicoclet, farandole de champignon.
C'est un champignon qui fait des ravages dans nos maisons. La mérule se nourrit du bois et adore l'humidité. Les dégâts peuvent être considérables.
Champignon marron, mon champignon, si bon mon champignon.
Alors évidemment, on prend ça à la légère et en souriant, mais vous allez voir que la mérule, ça rigole pas. Hein. Oui. C'est vraiment une menace qui peut être vraiment très dangereuse.
Et puis ça ne se mange pas, comme non, les champignons dont on vient de parler.
Voilà, il faut vraiment avoir très très faim.
Nous sommes ce matin avec Christophe Bruand, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes patron de APBM, qui est une entreprise spécialisée dans, on va dire, la lutte contre toutes les nuisances du bois dans la maison, mais pas seulement d'ailleurs, j'imagine.
C'est ça, principalement tout ce qui est pathologie du bois, les insectes à larves xylophages, les champignons, les termites.
D'accord. Donc, on va parler avec vous de mérule, parce que vous me disiez tout à l'heure qu'il y a plus de 20 ans que vous êtes dans ces métiers et que, en tout cas dans la région parisienne, on parlera ensuite de la répartition nationale, mais dans la région parisienne, c'est en train d'exploser, quoi.
Ah bah, pour la petite anecdote, oui, effectivement, moi, étant dans le métier depuis 22 ans, au début, les problèmes de mérule, c'était essentiellement la Normandie, la Bretagne. En région parisienne, on avait 1-2 rendez-vous tous les 2 mois pour des problèmes de mérule. Aujourd'hui, on est quasiment à 3-4 rendez-vous hebdomadaire.
Ah oui, d'accord. Donc là, c'est vraiment en pleine prolifération. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que la mérule? On parle de champignons, mais quand on parle de champignons, on voit le cèpe avec son beau chapeau, etc. Ça n'a rien à voir. Enfin, sur un plan, je dirais biologique, c'est à peu près la même chose, mais c'est pas du tout, ça n'apparaît pas du tout comme ça.
Du tout.
Quelle tête ça a? D'abord, comment ça fonctionne?
Ah bah, dans un premier temps, la mérule, c'est quoi? C'est un champignon lignivore qui se développe principalement dans les bâtiments ou, comme vous disiez, où l'humidité règne.
Oui, et l'obscurité, je crois aussi. Hein.
Alors oui, il faut des conditions de développement bien particulières. Il faut toujours une humidité, il faut un air confiné et il faut des bois à l'abri de la lumière.
D'accord, et une certaine température.
Une certaine température.
C'est-à-dire, c'est quoi, à partir de 14-15 degrés, quoi, quelque chose comme ça.
Au-delà de, on est en moyenne à peu près sur 20 degrés.
Hein. Ah oui, 20 degrés. Donc oui. C'est par exemple, alors l'idéal entre guillemets pour la mérule, c'est par exemple une résidence secondaire fermée pendant tout l'hiver en laissant du chauffage. Pour penser qu'on assainit sa maison et puis avec les volets fermés, quoi.
C'est ça. Bah, comme vous citiez tout à l'heure, c'est toujours malheureusement aujourd'hui l'humidité qui est le cancer pour un bâtiment. Soit c'est lié à un manque d'aération, de ventilation, un problème hygrométrique de l'air, des problèmes d'infiltration. Donc oui, l'humidité.
Alors, juste, évidemment, on va expliquer ce qu'est la mérule, comment elle se développe, etc. Mais j'aimerais vraiment que vous nous appeliez ce matin pour soit poser des questions concernant la mérule ou alors nous dire si vous avez été infecté par la mérule.
Ou si vous suspectez.
Ou si vous suspectez, quels sont les premiers signes? Vous avez des questions 32-16 ou bien via l'appli RMC Direct Studio. Laissez-nous votre numéro de téléphone.
Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? On a quoi dans un champignon? Il y a, on va dire, un système racinaire, pour simplifier.
Oui, c'est ça.
Et puis du mycélium, c'est-à-dire des bras, pour simplifier encore, voilà, qui vont chercher l'humidité.
C'est ça, c'est un peu les racines du champignon qui vont chercher l'humidité et la cellulose pour se développer.
D'accord. Et quel aspect ça a? C'est assez dégoûtant. J'ai mis sur Facebook une photo. C'est pas ragoûtant, quoi.
Alors, on s'en aperçoit pas forcément au début. Au début,
c'est ça le problème.
On voit une toile un petit peu grisâtre. Et après, quand le champignon commence à se développer, devient à maturation, on a une masse de fructification, de couleur un petit peu rouille. Là, c'est un petit peu comme l'iceberg, les 9 dixièmes sont cachés.
Ah oui, les 9 dixièmes sont cachés, plus que l'iceberg même. Et donc, ça fait quoi? J'ai vu que ça coulait un peu, il y a une en surface.
On peut dire après, c'est une éponge. Que ça développe de l'humidité en plus pour continuer à prédigérer, à attaquer les bois.
Et ça peut proliférer sur des dizaines de mètres.
Ah oui, oui, oui. Sur différents niveaux, sur différents étages. C'est pour ça que quand on traite la mérule, on doit la traiter sur 3 dimensions.
C'est-à-dire 3 dimensions?
C'est-à-dire sur la hauteur, sur la largeur, sur la profondeur. Si on est sur un premier étage, on est pratiquement obligé de traiter l'étage du dessous, l'étage du dessus.
Alors, moi j'avais juste... Alors, avant, tout à l'heure, on va parler du traitement, s'il en existe.
On va y venir.
Mais elle se développe parce que elle s'étend ou est-ce que les sports, parce qu'on sait que...
C'est pas les sports.
C'est pas les sports qui vont se balader dans la maison et qui vont se poser.
Ce sont les mycéliums. Des sports, on en a partout à l'état latent. Il y en a dans les forêts. Après, il faut des conditions bien précises pour le développement du champignon.
Les spores, c'est un peu les graines du champignon, de toute façon.
C'est ça.
Donc là, on n'est pas. Alors, il peut y avoir des graines qui vont dans la maison d'à côté, si j'ose dire. Des spores peuvent aller
Une maison infectée par la mérule peut infecter une autre maison?
Non. Si les conditions d'humidité ne sont pas présentes, c'est pas
possible.
D'accord.
Voilà. Oui, oui.
Il faut vraiment que les conditions qui ont été décrites, c'est-à-dire l'humidité, le confinement, l'obscurité et la température soient réunies.
Tout à fait.
D'accord.
Et c'est pour ça que d'ailleurs que ça touche finalement les régions, on va dire un climat doux, tempéré. C'est pour ça que la Bretagne,
la Normandie, propices.
On sait que Cabourg, Deauville, Trouville, tout ça, c'est très touché. Même si les immobiliers ont tendance un petit peu à minorer le phénomène, mais j'ai de très bons amis immobiliers dans le secteur, donc j'ai des tuyaux, si j'ose dire. Et puis le nord de la France aussi, et puis Paris.
Et tout à fait.
Le sud donc moins parce qu'il y a moins d'humidité, c'est
voilà.
ça.
Moins d'humidité, moins de conditions pour le développement de ce champignon.
D'accord. Dans le sud de la France, il n'y a quasiment pas de mérules.
Quasiment pas.
D'accord.
Alors, quand on constate ce phénomène, est-ce qu'on est obligé de faire une déclaration comme pour les termites, par exemple?
Alors, maintenant, effectivement, on a la loi Allure qui incorpore un petit peu tout ce qui est la problématique de mérules. La loi Allure comporte 4 niveaux d'obligation pour les propriétaires avec la déclaration obligatoire en mairie par les occupants, pour le préfet la délimitation au niveau départemental des zones de présence d'un risque de mérules
et avec une carte qu'on peut consulter d'ailleurs.
Exactement. Auprès du FCBA.
Voilà, le FCBA on n'en a pas parlé jusqu'à présent, c'est on va dire la fédération des industriels du bois.
Exactement, c'est l'organisme qui gère les entreprises qui sont certifiées pour le traitement des pathologies du bois en France et dans les DOM.
Voilà, alors on en était au préfet, après.
Ensuite, il y a pour le diagnostiqueur, avec l'obligation d'informer sur la présence d'un risque de mérule en cas de vente d'un bien immobilier.
Ouais, c'est ou de location.
Exactement. Ou pour l'entreprise de traitement, donc là, de traiter les matériaux avant évacuation pour éviter justement
une prolifération. Alors justement, les entreprises, comment être sûr de s'adresser à une entreprise compétente qui utilise des bons produits?
Il faut s'orienter sur des entreprises qui sont certifiées, qui sont testées...
Certifiées par le FCBA,
CTBA+.
D'accord, ça vous pouvez aller sur Internet, vous tapez CTBA+, ou FCBA,
exactement.
Et vous aurez toutes les informations... La liste des entreprises, c'est très important. Parce qu'il y a là-dedans encore beaucoup, évidemment,
délinquants
qui se glissent.
Et qui profitent, en fait, de ce drame. Voilà.
Et, ou alors qui vous disent qu'il y en a alors qu'il n'y en a pas.
Tout à fait.
Ça, c'est l'escroquerie. C'est classique en ce moment, dans d'autres domaines, on le sait bien. Notamment aussi pour les insectes oxylophages, tout ça.
Exactement.
Mais soyez très attentifs. FCBA et CTBA+, pour l'entreprise et les produits. CTBA P+.
CTBP+, pour les produits.
CTBP+, pour les...
La marque décline en fonction un petit peu de la destination.
D'accord. Donc, qu'est-ce que va faire cette entreprise?
Cette entreprise, elle va déjà intervenir, diagnostiquer, vérifier si c'est bien de la mérule. Ensuite,
vous avez des outils où ça se voit? Un expert le voit tout de suite?
Pour un professionnel du traitement, il le voit. On le reconnaît. Après, si on a un doute sur le champignon, on peut envoyer des échantillons au service mycologique du FCBA.
D'accord.
Pour l'analyse et déterminer si c'est bien de la mérule.
Et si c'est pas de la mérule, ça peut être aussi des champignons dangereux.
Il peut y avoir d'autres champignons, le polypore des caves, le goniophore. Après, ce sont des pathologies qui sont quand même aussi importantes, mais moins virulentes que la mérule.
Ouais. La mérule, ça se développe en combien de temps?
Tout dépend des conditions.
Mais si les conditions sont favorables, si j'ose dire.
Bon, après, on a vu des pièces de bois coupées en deux par le champignon en quelques semaines.
En quelques semaines?
Oui.
Oui, c'est quand même. Et est-ce que, alors, on va pas faire peur, mais est-ce qu'il y a vraiment des cas où comme je disais tout à l'heure, il n'y a plus qu'à détruire le bâtiment.
Oh bah, comme je vous disais, malheureusement, quand on commence à s'apercevoir des infestations de mérules, les 9 dixièmes sont cachés. Donc il y a déjà des gros bobos au niveau de la maison. Donc ça peut jouer sur la structure même des charpentes, des planchers, d'autres boiseries. Oui, ça peut faire.
Et puis vous devez avoir un problème constructif aussi, c'est que maintenant toutes les maisons sont doublées en plaques de plâtre. Donc ça doit pouvoir se développer derrière.
Ah bah
c'est ça le problème.
C'est pour ça que
et donc ça se voit pas. Et ça se voit pas.
Ça se voit pas. Et c'est pour ça qu'on est obligé de faire des travaux d'exploration pour déterminer l'étendue de la mérule. Quand on est dans des zones aménagées, effectivement, on est obligé de déposer les doublages, les revêtements de sol. Quand c'est dans un sous-sol, c'est relativement plus visible.
Avec le risque de vis cachée, hein, parce que je rapporterai moi le témoignage d'un ami qui était dans l'immobilier il y a quelques années à Cabourg, pour ne pas nommer la ville, et où s'appuyant, ayant un appartement nickel, et où s'appuyant, mettant la main sur la plaque de plâtre,
simplement pour se reposer, quoi.
Oui, enfin, oui. Voilà. Et rentrant dans la plaque de plâtre jusqu'à l'épaule.
Mon Dieu.
Et derrière, c'était complètement gagné par la mérule. C'est donc, terrible. Ça veut dire que c'est quand même effectivement extrêmement sérieux.
La mérule s'attaque à tout type de matériaux.
Non, alors ça s'attaque principalement au bois, ça se nourrit du bois, aussi bien sur des bois résineux que feuillus, mais ça peut traverser la porosité des matériaux, des pierres, pour continuer à se développer.
Voilà, ça veut dire que ça traverse les pierres, ou ça peut traverser un mur en parpaing pour aller chercher avec son mycélium la flotte et
Mais est-ce que ça va fragiliser le mur en parpaing?
Non, ça va pas fragiliser, mais ça va amener encore de l'humidité.
Oui, c'est ça, ça va mettre encore plus d'humidité.
D'accord.
Et donc c'est dingue. Alors maintenant on peut parler de traitement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites, docteur? Et que fait la police?
Ah bah quand on intervient pour le traitement, on va bien évidemment, comme je disais, faire des travaux d'exploration pour déjà dans un premier temps déterminer l'infestation de mérules. Dans un deuxième temps, mettre une étape curative qui est de supprimer toutes les sources d'humidité pour éviter la prolifération du champignon. Et après, on va intervenir selon un protocole, selon des prescriptions techniques établies par le FCBA pour le traitement avec des produits adéquats.
Mais alors, il va falloir bûcher, si j'ose dire, aussi les parties en bois, les parties fragilisées.
Justement, pour déterminer la résistance mécanique, l'état structurel des bois.
Et l'étape suivante, quand ça sèche, ça forme une espèce de mosaïque, de bleu.
Quand la mérule s'attaque un petit peu au bois, effectivement, ça ramène de l'humidité et ça va attaquer la fibre du bois. Donc ça a un petit peu l'aspect, c'est ce qu'on appelle la pourriture cubique, ça fait un petit peu comme l'aspect du charbon de bois, comme le bois brûlé.
Et ça, du coup, ça n'a plus aucune résistance mécanique.
Petite question sur Direct Studio, la question de Sylvain qui nous dit: quelle prise en charge par les assurances concernant la mérule?
Il n'y a pas de prise en charge en règle générale par les compagnies d'assurance.
Non, parce que c'est pas assurable, effectivement. C'est un risque. Faut quand même le dire. C'est un risque aléatoire. Toute la France n'est pas, ou les régions ne sont pas gagnées.
C'est un sinistre, finalement. Comme une maison peut être brûlée, on peut imaginer que la mérule pourrait être couverte par certaines assurances.
Je n'ai pas d'informations particulières sur une possibilité de s'assurer.
Non, du tout.
D'accord.
Du tout.
Dites-moi. On revient dans un instant. 8h-20, on évoque la mérule et les dégâts impressionnants qu'elle peut faire dans la maison. C'est pas de la science-fiction, hein. Là, on parle de choses réelles.
Tout à fait réelles.
32-16, l'appli RMC Direct Studio, si vous voulez nous joindre, témoigner ou poser vos questions à notre invité.
Mais ce n'est pas complètement désespéré. On va voir que les moyens de traitement existent.
Il faut sortir quoi là, la fausse artillerie?
Oui, hein, des produits quand même assez costauds.
Assez costauds. On en parle dans une minute. Et à tout de suite sur RMC, c'est le week-end des experts et c'est la maison jusqu'à 8h.
RMC.
Jusqu'à 8h.
Votre maison, François Sorel.
Christian Pessé.
8h-15, le retour de ce week-end des experts, la maison sur RMC. Merci de nous rejoindre et bon réveil à vous toutes et à vous tous. Et bonnes vacances. Des vacances scolaires de février, pour la première zone. Alors, profitez-en. Christian,
oui.
D'ici 8h, on parle de la mérule avec notre invité Christophe Bruand, qui est co-gérant de la société APBM.
Voilà, qui est en région parisienne et qui nous disait tout à l'heure les dégâts que la mérule fait maintenant en région parisienne, alors qu'elle était tout à fait absente pratiquement il y a une vingtaine d'années.
Alors, pas mal de questions sur Direct Studio, comme par exemple Manisa qui nous demande: y a-t-il des essences de bois qui résistent à ce champignon, à la mérule. On dit que le châtaignier, par exemple, ne pourrit pas.
Alors, en France, on n'est pas sur des essences de bois imputrescibles. Tout ce qui est feuillu, résineux aujourd'hui en France sont susceptibles d'être infestés par de la mérule. Après, il y a des essences de bois plutôt tropical ou comme l'IP du Brésil, où là, il y a moins de risques de pourriture du bois avec les champignons.
Ou le teck, par exemple.
Le teck.
Mais on imagine que, par exemple, un résineux, ça va être plus résistant que du chêne, peut-être ? Non, pas forcément. Parce
non, le résineux, non. Il va être beaucoup plus attaqué facilement par la mérule qu'une essence feuillue comme le chêne ou le châtaignier.
C'est ça. Mais vous nous disiez tout à l'heure en antenne que le château de Versailles n'a pas été épargné par la mérule.
Pas que le château de Versailles, le château de Fontainebleau, des vieilles églises, des vieux ouvrages, oui. Malheureusement, qui, avec le temps, ont subi des problèmes d'infiltration, d'humidité au niveau des toitures, qui se retrouvent avec des problèmes de mérule au niveau des bois.
Et là, pourtant, c'est du chêne centenaire, multicentenaire.
Oui, même plus que ça. Mais aujourd'hui, on n'est pas sur des essences de bois qui ne risquent pas d'infestation d'insectes à larves esophagées et de champignons lignivores.
Alors, technique d'éradication. Vous avez dit, il y a d'abord la phase d'exploration. Je pense qu'il y a de la phase aussi peut-être un peu destructive parce qu'il faut enlever tout ce qui est pourri.
C'est ça. Il faut explorer pour vraiment déterminer l'étendue du champignon.
D'accord. Mais alors après, il y a des produits. Et ces produits, ils sont pas aussi nocifs pour l'homme que pour la mérule. C'est-à-dire, en voulant tuer la mérule, on va pas assassiner nos enfants.
Non, parce qu'aujourd'hui, pour le traitement des pathologies du bois, on a des produits qui sont testés en laboratoire par le FCBA sur l'efficacité du produit sur les pathologies. Et ce sont des produits aujourd'hui qui doivent respecter des normes d'écotoxicité aussi bien pour l'homme que pour l'environnement.
Et alors, comment on les applique ces produits ? C'est quoi ? On les pulvérise ?
Alors,
en fonction
de la configuration, il y a des injections au niveau des murs, des injections au niveau des bois et une pulvérisation avec un produit spécifique pour les maçonneries et un produit spécifique pour les bois.
Alors la maison, elle est inutilisable pendant toute cette période-là, non ?
Pendant la période de travaux ou si c'est dans des pièces de vie, oui, ça peut être contraignant.
D'accord, ça prend beaucoup de temps un traitement ?
Ça peut demander d'une journée à une semaine.
D'accord. Et est-ce que c'est vraiment efficace ? Est-ce qu'après ce traitement, vous garantissez que vous éradiquez la mérule ?
Oui. Mais la première étape curative, comme on disait, c'est de remédier à tout problème d'humidité. D'accord. Ça, c'est, oui, c'est la raison obligatoire pour une bonne efficacité du traitement dans le temps.
Sébastien, sur Direct Studio, j'ai fait isoler mes combles perdus avec de la laine de bois. Est-ce que ce matériau est susceptible d'être attaqué par la mérule ?
Non, parce que comme la plupart des matériaux aujourd'hui isolants écologiques, comme la ouate de cellulose, la fibre du bois, il y a...
Le biosourcé.
C'est ça, il y a à peu près 4% de sel boracique qui évite justement les problèmes de champignons, les problèmes de moisissure au niveau de ces matériaux.
Donc c'est naturel, mais il y a un peu de traitement, quoi.
Il y a un petit peu de traitement.
Et alors, la question, j'allais dire qui tue, ça coûte combien ? Alors c'est très difficile, j'imagine, à évaluer, mais si une maison est vraiment attaquée, ça va coûter combien ?
Ah bah, et comme je vous disais, après tout dépend de l'étendue du champignon. Ça peut varier de 1000 euros à plusieurs milliers d'euros.
Vous alliez dire plusieurs dizaines de milliers d'euros.
On a eu des cas où effectivement on a commencé l'exploration sur un pavillon et on s'est aperçu que ça grimpait d'étage en étage.
Et les pavillons récents peuvent être aussi touchés ou c'est simplement les vieilles bicoques ?
Aujourd'hui, on a de plus en plus de pavillons qui ont moins de 10 ans, donc qui rentrent dans le cadre de la dommage ouvrage et qui sont beaucoup infestés par des problèmes de mérule, mais principalement au niveau des vides sanitaires ou des sous-sols mal aérés, mal ventilés.
Ouais, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, là, je le dis moi, à longueur de temps, ventiler vos maisons, quoi.
C'est indéniable.
Et à partir du moment où on a fait ces travaux, François en parlait tout à l'heure, il y a une garantie, vous avez une garantie
Il y a une garantie sur les maçonneries, il y a une garantie sur les bois.
Et sur combien de temps ?
De 5 à 10 ans, en fonction des traitements. Mais si on a remédié au problème d'humidité, qu'il y a une bonne efficacité du traitement, c'est définitif.
Merci beaucoup. Merci Christophe Bruand de la société APBM. Et vous êtes évidemment certifié CTBA.
CTBA plus depuis plus de 30 ans.
Eh bien, dites-moi. Donc, ça va dans le studio, il n'y a pas trop de mérules ?
Ça va. Je vais vous laisser une carte.
Alors, laissez-nous une carte. Je ne sais pas si vous avez un appareil pour détecter, etc.
Mais il n'y a pas d'appareil comme pour les termites, là.
Non, du tout.
Bon, en tout cas, on est dans des studios qui sont neufs. Je ne pense pas que. Hein, Christian, qu'est-ce que
vous en pensez ? Ça devrait aller, là, je pense.
Ça devrait aller.
Puis je ne vois pas trop de bois, je vois surtout.
De l'électronique et des câbles.
Et de l'acier.
Ça, c'est sûr.
Avec des structures tubulaires.
On enchaîne avec. Tiens, on va rester toujours dans l'humidité, finalement, qui est la clé de tout. C'est Eric qui est avec nous au 32-16. Bonjour, Eric.
Oui, bonjour, monsieur.
Bonjour, Eric.
Merci pour l'émission. On vous écoute. Tombe à pic.
Ah oui, voilà, parfait.
Alors, voilà, j'habite une maison assez, qui a quelques années, quoi, qui n'est pas récente. Il y a une mezzanine. L'isolation, donc, ça a été bien mieux isolé au fil des années. Et maintenant, j'ai un souci de condensation, n'ayant pas de EMC, n'ayant pas la possibilité d'en installer une, dans la mezzanine, sur les points hauts. Du plafond, on peut dire, quoi.
Bien sûr, vous êtes sur la condensation. Alors, si vous ne pouvez pas installer de VMC, il y a ce qu'on appelle globalement la VMI. Alors, encore, c'est un nom déposé, mais ce qui vous met la maison en surpression. C'est-à-dire que vous allez avoir une petite centrale, parfois avec une capacité de réchauffer. Donc, c'est pas très, c'est pas très vertueux sur le plan purement de la RT 2012, mais la réglementation thermique. Mais, ce qu'il y a, c'est qu'on va puiser l'air en extérieur et on va souffler l'air dans l'intérieur. Et on va faire en sorte que les huisseries, notamment les portes, soient détalonnées, donc détalonnées, ça dire un petit jour, et qu'il y ait des ouïes de sortie de l'air dans la maison. Si bien que c'est l'inverse de la VMC, au lieu d'aspirer l'air pour le recracher à l'extérieur, eh bien là, vous poussez l'air à l'intérieur et vous allez régler tout à fait vos problèmes d'humidité de cette façon-là.
D'accord. Et Deux questions, s'il vous plaît. Hier, j'ai fait venir une entreprise qui m'a fait un prélèvement sur les champignons, qui doit me rendre son verdict la semaine prochaine, en fait. C'est une entreprise, bon, je ne sais pas si je peux la citer.
Faites comme vous voulez.
Murprotec.
Oui.
Et voilà, ils doivent peut-être solutionner ce problème. Et après, je pensais acheter un déshumidificateur, peut-être, pour
voir si ça
peut solutionner le problème.
Non, mais attendez, les champignons, entre guillemets, que vous avez là, c'est de la moisissure, c'est pas de la mérule, là. Donc, ne vous laissez pas avoir avec des factures, des montants de vie faramineux. Vous avez la bonne solution aussi, c'est-à-dire la ventilation, plus un ou plusieurs des humidificateurs électriques, si possible raccordés sur l'évacuation des eaux, et vous allez sortir jusqu'à des quantités, des litres d'eau par jour.
Parfait, voilà. Merci beaucoup Eric. Et Christian, on termine par votre coup de cœur cette semaine.
Oui, mon coup de cœur, c'est la gouvernance. Il y a eu cette semaine le syndicat des énergies renouvelables qui a fait son 12e colloque et on y a notamment appris de la bouche du président Jean-Louis Ball, que je salue, que la production électrique renouvelable a couvert 23% de la consommation française en 2019. Bravo, c'est un résultat remarquable, avec en tête l'hydraulique, parce que ça reste le fond de l'énergie renouvelable. Ça couvre la moitié de cette consommation environ, mais aussi de belles performances de l'éolien, qui est en forte progression avec une couverture de 7,2% sur l'année et 10% en décembre. Donc ça augmente, on voit. C'est la démonstration que les éoliennes, parfois décriées pour gâcher le paysage, ne sont pas inutiles. Et on a appris aussi que l'installation des éoliennes offshore, sur lesquelles la France est très en retard, c'est-à-dire en mer, c'est-à-dire...
On commence à avoir des installations, hein, mais c'est vrai...
Pour l'instant, en France, c'est extrêmement faible. Ça devrait devenir une réalité en 2020 et dans les années suivantes. L'objectif, c'est de porter à 40% la part de l'énergie renouvelable pour couvrir la consommation nationale d'électricité. Eh bien, ça semble réaliste maintenant. C'est une bonne nouvelle. Alors, pour en savoir plus, vous pouvez télécharger l'ensemble de l'étude en allant sur le site syndicat-énergie au pluriel renouvelable au pluriel .fr. Je le mettrai sur le site sur la page Facebook, veux-je dire, donc de l'émission.
Merci beaucoup Christian PC. Christian qui vient d'arriver, bonjour Christian.
Docteur Christian PC, ne changez rien, c'est parfait. Merci. Nous sommes trois médecins là autour de la table, et puis François qui est secteur, chef d'orchestre, quoi. Changez rien, très bonne Christian. Initiative du renouvelable.
Alors, moi j'aimerais proposer à Christian PC quand même de choisir entre le pot-au-feu, les lentilles saucisses, le hachis parmentier, la poule au pot, le coq au vin, le bœuf bourguignon, la volaille, choucroute cassoulet. Qu'est-ce que vous préférez ?
Pot-au-feu peut-être en premier, deuxième choucroute et troisième, évidemment, vous connaissez ma passion pour les vins de Bourgogne, donc le coq au vin et le bœuf bourguignon à la bourguignonne, donc me vont très bien.
Christian Riquier, ça vous va comme régime ?
Nous sommes ce que nous mangeons à la molécule près, et je comprends pourquoi Christian est dans cette stature.
Ouais, donc il peut manger tout ça.
Il peut manger tout ça. Il est en totale bonne santé.
Le pot-au-feu, ça va.
Il a de la culture, il a du bon goût, tout va bien.
À tout de suite sur RMC. Ce sera la forme et la santé avec Christian Ricci après la météo, le trafic et les infos. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Votre forme.